Les zones d'ombre de l'histoire.
La paix des dupes, c'est le titre d'un passionnant polar écrit par Philippe Kerr. L'auteur imagine une conférence de Téhéran au cours de laquelle Adolf Hitler fait une apparition imprévue pour y proposer la paix. Bien sûr, il s'agit d'une fiction, car si cette rencontre entre les alliés a bien eu lieu, aucun dirigeant nazi n'a été invité, et aucune offre de paix n'a été proposée ce jour-là. Et si l'écrivain anglais, qui était un fin connaisseur de la Seconde Guerre mondiale, s'était inspiré d'un fait réel ? L'Allemagne nazie a-t-elle proposé la paix, sinon aux alliés, au moins à certains pays ? La réponse est oui. À partir de la fin de l'année 1940, de façon très discrète, des personnages clés du Troisième Reich vont faire des offres de paix à la Grande-Bretagne. Cela va se concrétiser le 10 mai 1941, par ce que l'on appelle souvent le mystérieux voyage de Rudolf Hess. Ce jour-là, en effet, celui que l'on a coutume de présenter comme le dauphin d'Hitler s'envole pour l'Écosse avec en poche un plan de paix. Mais l'accueil qui lui est réservé n'est pas celui qu'il espérait. Le dirigeant nazi est immédiatement incarcéré et mis au secret. Le dernier acte d'une formidable manipulation orchestrée par les services de renseignement britanniques vient de se produire. Nous revenons aujourd'hui sur cette paix des dupes qui ne fut pas le fruit de l'imagination d'un écrivain, mais qui appartient bel et bien à l'histoire.
London pride has been handed down to us. London pride is a flower that's free. London pride means our own dear town to us, and our pride it forever will be. Woe, Liza, see the Custer barrels, the vegetable marrows and the fruit piled high. Oh, Liza, little London sparrows, Covent Garden Market where the Custers cry. Cockney feet mark the beat of history, every street pins a memory down. Nothing ever can quite replace the grace of London town.
Durant le second semestre de l'année 1940, la situation militaire de la Grande-Bretagne est assez défavorable. Les îles britanniques sont pilonnées de façon très régulière par l'aviation nazie. Et sur les mers, ce n'est pas mieux. La population souffre et Winston Churchill ne parvient pas à persuader les États-Unis d'entrer dans le conflit. La politique du Premier ministre anglais commence à être contestée, d'autant que dans l'aristocratie ou chez les parlementaires, il n'est pas très difficile de trouver des hommes ayant des sympathies pour le régime nazi. Les services de renseignement anglais vont alors faire deux observations. D'une part, ils sont persuadés qu'Hitler va tôt ou tard rompre le pacte germano-soviétique et ouvrir un front à l'Est. D'autre part, ils savent qu'au sein de l'appareil politique nazi, il existe des individus enclins à négocier une paix avec le Royaume-Uni. Au mois de juillet 1940, il se produit deux faits importants. En Grande-Bretagne, c'est la création du Special Operation Executive, SOE. Il s'agit d'un département des services de renseignement chargé de monter des opérations spéciales. À l'intérieur de ce SOE se trouve une structure dont l'existence est ultra confidentielle, une branche chargée de la désinformation. Ce cabinet noir va bientôt entrer en scène. D'autre part, les experts militaires du Troisième Reich sont parvenus à convaincre Hitler que si l'Allemagne nazie a la supériorité dans les airs, un débarquement en Grande-Bretagne est presque inenvisageable. Ainsi, le Führer commence à évoquer une paix possible avec l'Angleterre. C'est le cas, par exemple, lors d'un discours tenu en juillet au Reichstag. Durant l'automne 1940, Hitler pense que la supériorité militaire du Troisième Reich lui offre un avantage pour négocier la paix. Mais les stratèges nazis ne veulent pas transiger avec Winston Churchill, le belliciste. Il pense qu'il existe des opposants à la politique ferme du Premier ministre. Les services de renseignement anglais sont déjà à la manœuvre et élabore un plan particulièrement machiavélique, tout aussi audacieux que risqué. Si l'on ne peut pas dire qu'il existait un véritable complot constitué d'opposants germanophiles à la politique de Churchill, il y avait malgré tout des hommes influents tout à fait disposés à prendre l'angle avec les nazis. La cellule ultra-secrète du Special Operation Executive va donc utiliser ses pacifistes afin de faire croire à l'Allemagne nazie qu'elle peut compter sur des interlocuteurs disposés à pactiser et qui, le moment venu, parviendront à imposer la paix et donc à mettre Churchill sur la touche. En faisant croire à une paix possible, les Anglais espèrent pousser très rapidement l'Allemagne nazie à ouvrir un nouveau front à l'est et ainsi à desserrer l'étau qui pèse sur les îles britanniques. En novembre, un diplomate anglais est approché par un émissaire du Vatican. Ce dernier lui fait savoir que l'Allemagne est prête à négocier la paix avec les opposants à la politique de Churchill. Les services de renseignement anglais ont alors déjà identifié deux proches d'Hitler qui seront leurs interlocuteurs. Il s'agit de Karl Haushofer et son fils Albrecht. Karl, le père, est professeur de géopolitique, mais il est surtout l'un de ceux qui a élaboré la pensée nazie. On lui doit la théorie de l'espace vital qui veut que le peuple arien puisse disposer d'un territoire largement supérieur à celui de l'Allemagne. Pour lui, l'ennemi du Troisième Reich, c'est le communisme. Il est donc partisan d'une détente avec l'Angleterre pour se concentrer sur la Russie. Son fils, Albrecht, est encore plus anglophile. Apparemment proche du duc d'Hamilton, il entretient des contacts avec certains membres des services de renseignement britanniques. Il faut préciser que cette relation est particulièrement trouble et qu'elle illustre parfaitement le climat général de cette histoire. Au sein du renseignement anglais, il existe aussi des germanophiles qui tiennent à ce contact avec les Haushofer père et fils. Albrecht a-t-il été un agent des services de renseignements anglais? Certains le pensent. D'autres, au contraire, affirment qu'Albrecht n'a fait que donner l'impression d'une proximité avec les Anglais, pour ne servir finalement que les intérêts du Troisième Reich. Ses contacts avec certains membres des services de renseignement ne servant qu'à lui permettre d'identifier les interlocuteurs susceptibles de donner une issue favorable à des négociations de paix. Ce que Albrecht Haushofer ne sait pas, c'est que dans le camp du Premier ministre Churchill, on n'ignore rien de ces échanges. Il faut aussi préciser que les Haushofer sont très proches de Rudolf Hess et que le dirigeant nazi suit avec la plus grande attention l'évolution de ces discrets contacts.
Les zones d'ombre de l'histoire sur Radio Campus Paris.
Rudolf Hess naît le 26 avril 1894 en Égypte. Contraint par son père à faire des études commerciales, la Première Guerre mondiale lui donne l'occasion de les interrompre. Il s'engage volontairement dans le 7e régiment bavarois d'artillerie de campagne. Au début de novembre 1914, il est envoyé au front et fait preuve d'un indéniable courage sur le terrain. Il participe à la bataille de Verdun. Mais le 21 septembre 1916, il est gravement blessé par des éclats d'obus. Pendant sa convalescence, il demande à rejoindre les forces aériennes, mais c'est finalement dans une unité terrestre qu'on l'envoie en Roumanie en décembre 1916. À nouveau blessé, il reste au front, mais un tir l'atteint à l'abdomen et il échappe de peu à la mort. Au printemps 1918, alors qu'il va être enfin intégré aux forces aériennes, il effectue une mission au cours de laquelle il va rencontrer l'homme qui aura sans doute le plus d'importance dans sa vie, un jeune caporal qui s'appelle Adolf Hitler. Rudolf Hess n'aura pas le temps de combattre aux commandes de son avion. La guerre prend fin et il est démobilisé. Reprenant ses études à l'université de Munich, il va faire la rencontre du second personnage le plus important pour lui, le professeur de géopolitique Karl Haushofer. Cet homme a déjà formulé ce qui sera l'un des piliers de l'idéologie nazie, la théorie du Lebensraum, l'espace vital. Les idées de Karl Haushofer vont immédiatement séduire le jeune Hess, dont le patriotisme déjà très marqué a encore été exacerbé par ses années de guerre et le traité de Versailles qu'il n'accepte pas. En 1920, il adhère immédiatement au NSDAP, qui sera la rampe de lancement du Troisième Reich. Il devient aussi très vite l'un des membres les plus importants de l'Ordre de Thulé, une société secrète qui entretient le mythe de Thulé, sorte de paradis perdu, fantasme d'une contrée où la race aryenne supérieure vivait et qu'il faut recréer. Sa passion pour l'occultisme, qui fera l'objet de nombreuses discussions, se trouve ici exacerbée. En 1923, il participe au putsch manqué de Munich. Et après être parvenu à s'échapper, il se constitue prisonnier et va partager sa captivité avec Adolf Hitler. C'est durant cette captivité que le futur dictateur nazi rédige ce qui va constituer le socle de sa pensée politique et du Troisième Reich, Mein Kampf. En 1933, lorsqu'Hitler prend le pouvoir, Rudolf Hess est présenté comme son dauphin, celui qui est le plus proche de sa pensée. Pourtant, en 1939, lorsque la guerre éclate, il est marginalisé. Hess est un théoricien du nazisme, pas un stratège militaire. Hitler lui préfère donc des hommes comme Goebbels ou Göring. Et il devient membre du Conseil de défense, un poste sans réelle responsabilité. De plus, de nombreux collaborateurs d'Hitler n'hésitent plus à montrer ouvertement leur antipathie, voire leur mépris à son égard. Son mariage est raillé et l'on dit souvent qu'il n'est capable que d'un seul amour, une dévotion sans limite au Führer. Son intérêt pour l'occultisme apparaît comme suranné dans une époque politique où l'ordre de Thulé est un vestige qui a laissé place à une dictature bien concrète. Cette situation aura-t-elle une influence dans la place que Rudolf Hess va prendre dans les événements à venir? Au début de l'année 1941, le renseignement britannique parvient de mieux en mieux à intercepter les communications entre les différents corps de l'armée du Troisième Reich. Et ils apprennent qu'une opération militaire vers le front de l'Est est bien en préparation. Dans le même temps, les nazis intensifient leurs contacts avec des interlocuteurs anglais pour négocier la paix. En février, par exemple, Lord Halifax, ambassadeur du Royaume-Uni à Washington et opposant connu à la politique de Churchill, est approché par un diplomate italien. Ce dernier a été mandaté par un émissaire du Troisième Reich pour proposer un plan de paix très précis. Lord Halifax aurait alors dit à ses interlocuteurs que selon lui, la politique de Churchill était de plus en plus contestée et que le temps était bientôt venu où il serait remplacé par un homme disposé à faire la paix. À ce moment, Lord Halifax est-il sincère ou délivre-t-il un message qui lui a été suggéré par le Special Operation Executive ? Winston Churchill entrera bien en possession d'un plan de paix qui prévoyait le retrait progressif des troupes du Troisième Reich dans les pays européens occupés et la restitution de la souveraineté polonaise. Le Premier ministre et les stratèges britanniques ont donc bien la confirmation de ce qu'ils supposaient. Si Hitler veut soulager son armée sur le front de l'Ouest, c'est qu'il a bien l'intention d'ouvrir de nouvelles hostilités à l'Est. Mais le Premier ministre anglais ne réagit pas pour plusieurs raisons. D'abord, il n'était nullement disposé à pactiser avec le régime nazi, même si cela coûtait très cher à son peuple. Mais surtout, rendre publique l'existence d'un tel plan de paix aurait définitivement anéanti tout espoir d'un engagement des États-Unis dans le conflit. La posture de Winston Churchill est périlleuse, dans son propre pays tout d'abord. En ne divulguant pas cette proposition, il risque de donner plus de marge de manœuvre à ses opposants. Il risque aussi d'amener son pays à un épuisement irréversible. Vis-à-vis de l'Allemagne nazie, c'est aussi un pari audacieux. Combien de temps les nazis sont-ils prêts à attendre un signe de l'Angleterre? Mais Karl Haushofer et son fils sont persuadés de disposer d'interlocuteurs favorables à leur cause en nombre suffisant pour, le moment venu, être en mesure de peser sur le destin politique de Churchill. Il voit en Lord Balfour, Lord Butler, Lord Halifax et surtout Lord Hamilton, ainsi qu'en divers parlementaires et membres des services de renseignement des alliés à leur cause. Albrecht Haushofer pensera sans doute que Lord Hamilton pourra, le moment venu, étendre son influence jusqu'au roi George VI. L'Allemand avait de bonnes raisons d'y croire, car ses contacts étaient, si l'on peut dire, officiellement encouragés. Bien entendu, Rudolf Hess suit avec la plus grande attention ses tractations de l'ombre. Au printemps 1941, ce petit groupe apprend que les Anglais ont désigné le duc de Kent pour mener les négociations. Ce choix est interprété comme de très bon augure. Non seulement le duc de Kent n'est pas un fervent soutien à la politique de Churchill, mais en plus, il a l'oreille du roi. Les Anglais achèvent la mystification en sollicitant Albrecht Haushofer pour une rencontre avec un diplomate suisse proche de l'ambassadeur anglais dans ce pays. Un an auparavant, David Kelly avait participé à une ébauche de négociation. Le 4 mai, Hitler tend à nouveau la main aux Anglais en déclarant qu'il ne veut pas d'une guerre avec le Royaume-Uni. Le 6, Winston Churchill obtient un vote de confiance à la Chambre des Lords. Mais son gouvernement a été malmené et ses choix stratégiques sont de plus en plus contestés. En Allemagne, on désigne le parlementaire Ernst Wilhelm Böhler qui fera le déplacement jusqu'au Royaume-Uni afin de présenter un plan de paix. Le château de Lord Hamilton, au sud de Glasgow, sera le lieu du rendez-vous. Mais Ernst Böhler ne fera jamais le déplacement en Écosse. Le 10 mai 1941, vers 18h, un Messerschmitt Bf 110 décolle de la base d'Augsbourg, près de Munich. L'appareil a été spécialement modifié pour le trajet qu'il s'apprête à accomplir. Il dispose de réservoirs plus grands pour lui assurer plus d'autonomie. Il se dirige vers la mer du Nord, puis tourne à l'ouest pour atteindre les côtes britanniques. Sa destination est le domaine de Bungavel, près de Glasgow. Il doit se poser sur la piste du château de Lord Hamilton. Il faut noter que l'appareil n'essuie aucun tir de la défense anti-aérienne britannique. L'état-major a été prévenu de son arrivée. Il est 23h lorsque le Messerschmitt survole le château et la piste est mal éclairée. Le pilote ne peut pas se poser. Il n'a qu'une solution, sauter en parachute. Il se réceptionne mal et se blesse à la jambe. Ce qui se passe ensuite reste aujourd'hui encore auréolé de mystère. Le blessé aurait rencontré un agriculteur, peut-être un agent du renseignement britannique, qui l'aurait emmené dans un poste de police. Là, il se serait présenté sous l'identité du capitaine Horn et aurait demandé à rencontrer de toute urgence le duc d'Hamilton. Ce dernier manifeste peu d'empressement. A-t-il déjà deviné l'identité du mystérieux pilote du Messerschmitt ? Ce n'est que le lendemain qu'Hamilton rencontre le prétendu capitaine Horn. Mais il exige d'être seul. De cette rencontre, il ne filtrera que quelques bribes. Rudolf Hess, puisqu'il s'agit bien de lui, aurait dit au duc qu'il est venu de sa propre initiative, car les négociations tardaient. Il aurait dit à Hamilton que comme l'Angleterre ne peut gagner la guerre, elle devrait accepter la paix. Il aurait aussi expliqué que l'Allemagne était sur le point de se doter de nouvelles armes aériennes. Parle-t-il des futurs missiles V2 ? Hess aurait appuyé son propos en affirmant que l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont un ennemi commun, le communisme. Les services de renseignements anglais sont perplexes. Et si Hitler avait envoyé un sosie de Rudolf Hess ? Lord Hamilton semble embarrassé. Et il niera toujours avoir eu des contacts préalables à cette rencontre du 11 mai. Pourtant, c'est bien lui que le pilote du Messerschmitt demande à rencontrer dès son arrivée. On touche ici au cœur de la formidable manipulation orchestrée par les services de renseignement britanniques, de tous les interlocuteurs directs ou indirects qui sont entrés en contact avec l'Allemagne à partir de la fin de l'année 1940, lesquels jouaient le jeu consciemment et lesquels étaient instrumentalisés. Il est aujourd'hui encore impossible de le dire. Mis au courant immédiatement, le Premier ministre et ses conseillers du Special Operation Executive décident de mettre Rudolf Hess au secret et ne vont pas communiquer. Le piège vient de se refermer sur le dauphin d'Hitler. Il ne fera jamais le voyage retour. Quand les dirigeants du Troisième Reich apprennent la nouvelle, c'est la stupéfaction. Selon certains témoins, Hitler se serait effondré. Mais il est impossible de perdre la face. Alors, on va affirmer que Rudolf Hess était mentalement instable. On dira même qu'il était sujet à des hallucinations et l'on ne manquera pas de rappeler son intérêt pour l'occultisme. Pour toutes ces raisons, le Führer lui avait interdit de voler, mais il a réussi à braver l'interdiction. En Allemagne, on essaie d'y croire. Dans le reste de l'Europe, on prend note. Il s'agit de la première fissure politique visible du Troisième Reich. Quelles sont les circonstances qui ont donc poussé Rudolf Hess à se rendre en Écosse ce 10 mai 1941 et a-t-il réellement pris cette initiative seul ? Ce genre de fait n'allait pas manquer de faire naître de nombreuses hypothèses, d'autant que la Grande-Bretagne n'a pratiquement pas communiqué sur cette affaire et que la plupart des documents qui y sont liés n'ont jamais été rendus publics et ont été finalement détruits pour la majorité d'entre eux. On a par exemple raconté que Ian Fleming, futur créateur du personnage de James Bond, avait joué un rôle dans le voyage de Rudolf Hess. Fleming était assistant au MI6, les services de renseignement britanniques, et il aurait conçu un plan basé sur l'attirance du dirigeant nazi pour l'occultisme. Les services de renseignement anglais auraient infiltré des sociétés secrètes occultistes et proches du Troisième Reich afin d'attirer Hess dans un piège. Le sulfureux écrivain Aleister Crowley, fréquentant lui-même les milieux occultistes, aurait joué un rôle. Le plan aurait consisté, via les Haushofer père et fils, à faire croire à Rudolf Hess que les Anglais, et en particulier le duc d'Hamilton, n'attendaient qu'une seule chose, une offre de paix de l'Allemagne. La date du voyage aurait été décidée après qu'Aleister Crowley ait présenté à Rudolf Hess un horoscope truqué désignant le 10 mai comme une date propice. Bien évidemment, si d'un point de vue romanesque, cette histoire est très séduisante, elle est fausse. D'une part, on sait maintenant que de réels contacts directs diplomatiques ont bien eu lieu entre la Grande-Bretagne et le Troisième Reich. Ceux-ci furent discrets, car ils étaient le socle de la manipulation. Mais pour autant, aucune officine occultiste n'a probablement joué le moindre rôle dans le plan des Britanniques. De plus, le ridicule mysticisme auquel se référaient les nazis à leur début était devenu de l'histoire ancienne. Enfin, même si le degré de lucidité de Rudolf Hess reste un mystère, il était entouré de gens qui, eux, hélas, avaient bien les pieds sur terre. Si l'on examine la situation de Rudolf Hess au sein de l'appareil politique nazi en 1940, son voyage apparaît comme assez logique. Certes, il était l'un des fondateurs du Troisième Reich, mais il avait été un peu marginalisé. Par ailleurs, il est clair que les nazis ont réellement cru pouvoir négocier une paix avec la Grande-Bretagne. Même si à aucun moment ils ne montrent le moindre doute sur les intentions britanniques, ils n'avaient malgré tout aucune certitude. Un personnage comme Hess, suffisamment important mais un peu en retrait, était donc un émissaire idéal. Le dirigeant nazi, quant à lui, avait plusieurs bonnes raisons de vouloir se rendre en Grande-Bretagne. Tout d'abord, sa conviction que l'Allemagne ne parviendrait pas à vaincre l'Angleterre et son dévouement absolu au Führer le poussaient immanquablement à vouloir une paix au plus vite. Et puis, se sachant mal aimé par un certain nombre de proches d'Hitler et vivant sans doute difficilement sa marginalisation, il a forcément vu en ce rôle l'opportunité d'un retour en grâce. Enfin, lui qui était anglophile pensait forcément que les efforts de guerre du Troisième Reich devaient se concentrer à l'Est et que le communisme devait être un ennemi commun. Il est difficile d'imaginer que Rudolf Hess a pu prendre seul l'initiative d'un tel voyage. Le Messerschmitt qu'il a utilisé avait été modifié à sa demande pour accroître son autonomie. Et il l'a forcément testé plusieurs fois avant de prendre l'air. Or, les déplacements des dirigeants nazis étaient étroitement contrôlés. Il est à peu près impossible de croire dans un tel contexte que les préparatifs du vol aient pu s'effectuer sans qu'Hitler fût au courant. Bien plus tard, le major Karl-Heinz Pentsch, qui fut l'aide de camp de Rudolf Hess, déclara que le Führer était au courant du voyage. Il parlera aussi de la fameuse lettre que rédigea Hess et dans laquelle il écrivit « Si j'échoue, vous pourrez toujours dire que je suis fou et que vous n'étiez pas au courant ». En plus d'un acte de dévotion à celui qui fut l'homme le plus important de sa vie, Rudolf Hess a sans doute eu le sentiment d'accomplir un acte chevaleresque. La Grande-Bretagne n'exploitera pas du tout la capture du dirigeant nazi, pour au moins trois raisons. Tout d'abord, l'un des buts de la formidable manipulation était de pousser Hitler à ouvrir un front à l'Est. Or, si les Anglais ont bien obtenu des informations sur le déclenchement d'une importante opération militaire contre la Russie, ils pensent que celle-ci doit débuter dans le courant du mois de mai. Mais le mois se termine et rien ne se passe. Les stratèges du SOE ont dû patienter jusqu'au 22 juin pour considérer que leur diabolique plan avait totalement fonctionné. La seconde raison pour laquelle le Premier ministre anglais gardera le silence sur cette affaire tient évidemment au courant pro-nazi qui existait au sein de l'aristocratie britannique et dans quelques cercles parlementaires. C'est tellement vrai que le Royaume-Uni n'a jamais voulu regarder cet aspect de son passé. Enfin, Winston Churchill peinait à persuader les États-Unis d'entrer dans le conflit. Comment Washington aurait réagi à un tel événement? Il était impossible de le prévoir. Le mystère Rudolf Hess se prolongera au-delà de cet étrange voyage. Le docteur Hugh Thomas, qui travaillait à la prison de Spandau, où le dirigeant nazi sera transféré après son procès, prétendra qu'il n'a observé aucune des cicatrices qui auraient dû se trouver sur le corps du condamné, Hess ayant été blessé durant la Première Guerre mondiale. Ce médecin va donc en conclure que le prisonnier de Spandau n'est pas Rudolf Hess, mais un sosie. Il expliquera que le dirigeant nazi a été abattu lors de son voyage du 10 mai 1941 et qu'un sosie a été soit envoyé par l'Allemagne, soit trouvé par l'Angleterre pour le remplacer. Un sosie aurait donc pu duper tout le monde au procès de Nuremberg, y compris ses co-accusés. Visiblement, Hugh Thomas était peu perméable à la rigueur de l'historien. L'état mental de Rudolf Hess suscitera aussi la controverse. Le psychiatre qui l'examinera avant son procès déclarera que l'homme souffrait d'amnésie hystérique. Mais l'aumônier de la prison de Spandau dira, lui, que le prisonnier faisait preuve d'une vivacité et de capacités intellectuelles sans la moindre altération. Le détenu numéro 7 refusera de voir sa famille jusqu'en 1969 et il se suicide à 93 ans en 1987. En 2011, les restes du dirigeant nazi ont été exhumés et brûlés. L'Allemagne voulant mettre fin au lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du Troisième Reich que n'avait cessé d'être sa tombe. Dans les années 2000, deux chercheurs, Jan Semper-Kiesklich et Sherman McCall, retrouvent un échantillon sanguin qui a été prélevé en 1982 sur le détenu numéro 7 de la prison de Spandau. Avec difficulté, ils sont parvenus à retrouver un lointain parent du dirigeant nazi. La confrontation des deux ADN leur a permis de conclure que le prisonnier de Spandau était bien Rudolf Hess. Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode des Zones d'ombre de l'histoire et d'ici là, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le www.radiocampusparis.org à la page de l'émission.